Bien, donc, il est convenu que c'est moi qui commence, comme on dit. Je m'appelle Guy Collet, j'ai 75 ans, et je suis conseiller de Gérard Vincent depuis un certain nombre d'années. C'est un métier passionnant. Non, moi, c'est Gérard Massé. Bon, on y va. Alors, d'abord, je remercie l'ADESM, qui est une association que je connais depuis longtemps, bien évidemment. Et puis, ça me permet de revoir un certain nombre de directeurs et de non-directeurs avec lesquels nous sommes vraiment battus, mouillés notre chemise, vécu des moments très exaltants et difficiles. Et cette histoire, donc, elle continue. Et dans la question qui est posée du bilan, où en est-on par rapport à la question du secteur, eh bien, c'est une question très importante, très actuelle. Et il y a une phrase tout à l'heure qui m'a fait frémir, la psychiatrie, c'est compliqué. Voilà, c'est véritablement une approche. Voilà. Donc j'appartiens à la génération de psychiatres qui s'est nourrie, qui a commencé cette carrière à partir du concept de sectorisation, sur lequel d'ailleurs l'histoire est très bien décrite dans le numéro 17 de recherche, qui est très difficile à trouver, mais qui montre bien cette bataille à la fois de psychiatres, de gens du ministère, sur des options politiques, pendant une quarantaine d'années, après le drame de l'occupation, de la mort des malades, des difficultés terribles de nos établissements, et enfin, en mars 60, la possibilité de faire quelque chose. Pourquoi ? Le pays commence les Trente Glorieuses, c'est la fin des guerres coloniales, il y a une jonction d'une pensée clinique et de gens du ministère, et ensuite un certain nombre d'étapes qui vont se poursuivre, qui fait que le secteur à la française, qui, à mon avis, doit évoluer, doit être évalué, etc., reste quelque chose qui a rendu d'énormes services et qui était un outil avant tout de lutte contre l'asile, c'est-à-dire une position de réponse de soins repliée, auto-centrée sur l'hôpital, essentiellement axée sur la psychose. Donc le premier point, c'est quand même une innovation géosociodémographique. D'ailleurs, souvent, on dit la psychiatrie en avance, mais en fin de compte, une fois qu'on a dit ça, on trouve qu'on est très en retard. C'est une manière de nous dire, ben, écoutez, restez là où vous êtes, et on va faire pousser d'autres dispositifs. Et il a permis que, sur tout le territoire national, il y ait un dispositif hospitalier, ambulatoire, défini, avec, je vous rappelle, 829 secteurs de psychiatrie générale, 320 secteurs infanto-juvéniles et les services régionaux en milieu carcéral. C'est les trois définitions du secteur. D'ailleurs, il est important de dire tout à l'heure, depuis 1990, nous n'avons plus de nouveaux textes, donc nous sommes en attente d'adaptation, très clairement. Qu'il y a une amélioration du suivi des malades, notamment psychotiques, qui n'est pas douteux pour ceux qui ont vécu cette transition sur 30 à 40 ans. Que 80% des files actives sont ambulatoires. Il a été redit ce matin le chiffre quand même où l'hospitalisation pèse très lourdement en termes de coûts par rapport aux moyens que nous pouvons donner sur les extra hospitaliers. Là-dessus, un passage de 120 000 lits à 60 000 lits, mais comment sont organisés ces lits et comment a été mise en place les alternatives à l'hospitalisation, que ce soit au niveau du soin ou des réponses médico-sociales. Les passages très importants, parce que mars 60, en 68, simplement la psychiatrie devient autonome avec ses cursus de formation universitaire. Je rappelle la montée des psychiatres. On espérait que lorsqu'il y avait 1000 psychiatres en France, le chiffre de 4000 était espéré comme impossible à atteindre. Actuellement, on sait que le nombre de psychiatres va se stabiliser autour de 8000. Dans les années qui viennent, naturellement, reste le problème des répartitions et surtout à quoi ça sert un psychiatre. Alors voilà les points positifs. Il y a des points négatifs et n'y voyez surtout pas un discours anti-secteur. Il est évident que toute démarche de soins, toute conception doit évoluer. Le problème, vous le savez, il a été peu dit ce matin, c'est que nos actions ne sont pas évaluées par contre. Et que là, c'est un point qui pèse très lourd dans l'évolution actuelle, puisque nos débats sont essentiellement idéologiques et non techniques, puisque nous ne pouvons pas rendre compte véritablement de la validité de nos actions de soins. Alors, les points négatifs, c'est pas compliqué. Jusqu'en 80, un chef de secteur allait voir la DAS, on lui donnait ce qu'il voulait. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a des hétérogénéités. Moi, j'avais un patron, On avait un petit CMP au dernier étage d'une mairie. Et bien, il s'allait enfin en face, il avait tout, parce qu'il s'était battu pour avoir les choses. On les avait. Et en 81, choc pétrolier, et chacun est resté avec sa dotation, avec des problèmes de rattachement, naturellement. Je rappelle quand même le chiffre qui mérite d'être cité. Nous avons quand même un tiers de nos secteurs qui sont rattachés à des hôpitaux généraux, selon des formules diverses, et deux tiers à nos établissements spécialisés. De ce point de vue, que le secteur soit rattaché à un établissement général ou spécialisé, les missions sont les mêmes. Et l'évolution doit être exactement la même. Et en CHS, on doit être aux urgences à l'hôpital général, et à l'hôpital général, on doit pouvoir répondre en termes d'hospitalisation, de suivi au long cours, etc. Alors, le chiffre de 1 à 3 en région lyonnaise de ce matin, il est assez habituel. On a des extrêmes de 1 à 15. Hein. Donc, imaginez quand même des équipes de pompiers qui viennent arrêter un feu avec un pompier ou 15 pompiers, les effets ne sont pas tout à fait les mêmes. Et nous n'avons toujours pas de relation entre les besoins et les moyens. Alors, le vrai problème, on le voit bien, c'est véritablement le basculement de l'intra vers l'extra et le vilain mot, hein, qui ne veut pas dire grand-chose, d'hospitalocentrisme. C'est véritablement l'hospitalisation complète et un temps du soin hein, qui doit s'organiser avec des démarches extra-hospitalières très prédominantes. Donc, la véritable question, c'est la difficulté à maintenir une démarche communautaire sur les territoires sans doute plus larges. L'articulation des territoires, d'ailleurs, qui a été faite à ma connaissance uniquement en région Bretagne, grâce à Mme Berger, qui d'emblée a obtenu que les secteurs, les territoires MCO et médico-sociaux soient les mêmes. Et d'ailleurs, c'est une des régions qui actuellement est le moins mécontente de son évolution. Le problème, mais qui n'est pas un effet de la sectorisation, qui est le problème de la démographie médicale qui touche quasiment toute notre psychiatrie de secteur en milieu rural. Voilà. Bon, donc ça, pour l'instant, on ne s'en occupe pas, ça n'existe pas, c'est un faux problème, mais c'est quelque chose qui pèse très lourd. Alors, je vous propose un plan qui prend les décennies, parce que c'est un peu comme l'évolution de la data, tous les 10 ans, etc. Et la psychiatrie, je crois, elle a respiré de façon différente selon les décennies. Les années 70, l'arrivée des directeurs dans les hôpitaux psychiatriques. Je voudrais rappeler quand même que jusqu'en 68, nous étions médecins directeurs. Georges de Maison en parlait avec un trémolo dans la voix d'une nostalgie totale. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il a, de quoi il cause, etc. Et cette mutation, il faut la rappeler, parce que je me demande si dans les têtes, la mutation chez un certain nombre de psychiatres est véritablement faite. Donc, et ça, c'est le début des années 70. C'est le début de... Il y avait les pneumologues aussi, je crois, non ? Les cancérologues ? Ouais. Oui. Donc, ces années-là, ça commence, on met en place la sectorisation, les moyens ne sont pas là, les premières circulaires Poniatowski sur les trucs, gestion extra-hospitalière par la DAS, vous connaissez ça par cœur, et le dispositif se met petitement en marche, mais il se met en marche. Je rappelle quand même que c'était un choix. Les chefs de service n'étaient pas obligés de se sectoriser. S'ils mixaient leurs services et ils prenaient un territoire, eh bien, on leur donnait 2 ans de rappel de salaire, ce qui a permis, naturellement, d'être un accélérateur de la mise en place du dispositif considérable. Mais nous étions au début des Trente Glorieuses et il n'y avait pas de problème financier majeur. Les années 80 commencent. Là, la psychiatrie est toujours bien. Le secteur tient. On est content. Nous avançons sur les techniques de psychothérapie. C'est une discipline vraiment dynamique. Les médicaments, on a l'impression que ça va continuer. Hein. On a eu le lithium, les antidépresseurs, les neuroleptiques, etc., etc. On est vraiment dans un mouvement d'expansion. Et les années 80 voient arriver la psychiatrie libérale de façon importante. Car, effectivement, on est passé de 800 à 10-12 000 en une décennie. Et une partie importante des psychiatres vont s'installer en libéral, et sur une action d'ailleurs essentiellement psychothérapique, et en se concentrant naturellement dans les grandes villes pour un certain nombre de raisons. Les années 80, le tandem directeur, président de CME, médecin, répartit les moyens, crée des structures. Les projets de service sont souvent un peu unique, c'est des piles d'assiettes, des projets d'établissement, mais enfin bon, ça bouge, on ferme des lits, et on a une vision encore très totalement sanitaire de la psychiatrie. Et je pense que le gros tournant, là, du malaise qui a commencé à nous toucher, ça a été les années 90, où là, véritablement, nous étions attendus, là où le secteur, monosecteur, ne nous permettait pas d'aller ou de nous organiser. Je pense aux urgences, bien sûr. Je pense à une vraie réflexion sur le médico-social, la réhabilitation. Les problèmes de démographie médicale commencent à apparaître. Les concepts d'intersectorialité sont vécus comme une attaque frontale du secteur, ce qui n'est pas le cas. Il faut travailler en liaison, avec la liaison naturellement de l'hôpital général, mais autour du handicap, autour de la personne âgée. Et tous ces outils apparaissent. Et la question qui va devenir, et qui n'est absolument pas abordée actuellement, de la complémentarité de l'articulation publique-privée. Je rappelle que les établissements privés à but lucratif sont au nombre de 12 000, qu'il y a trois chaînes qui actuellement progressent, qu'il n'y a absolument, c'est un domaine qui n'est absolument pas exploré, sauf sur certains points locaux, et qu'on ne pourra pas continuer comme ça très longtemps. Alors les années 2000, là deviennent véritablement très inquiétantes, car il y a vraiment une difficulté, et je dirais là, un phénomène Astérix, quoi. Hein, c'est-à-dire, on se sent pas bien, on est les mauvais élèves, on n'avance pas comme il faut, on ne sait pas trop quoi faire. Et c'est aussi avant l'arrivée, naturellement, des ARH. Alors ça, ce que j'ai connu parfaitement, en gros, il y a eu trois tiers d'ARH. Il y a les ARH pro-psy, qui ont soutenu la discipline autant qu'ils ont pu, et souvent de façon assez à droite, mais sans évaluation, c'est difficile. Il y en a d'autres qui étaient plutôt en zone médiane. Et il y avait un bon tiers qui a ponctionné autant qu'il a pu, avec une vision agressive et négative de la discipline, surtout qu'on leur disait, la psychiatrie, c'est compliqué, donc allons-y.
C'est et puis vraiment.
Pardon ?
Non, mais.
Je pense que tu étais dans le tiers qui aimait bien, qui a compris l'importance de la psychiatrie. Bon, c'est la mise en place des pôles. Alors, je ne rentre pas sur le débat, un pôle, un secteur, trois secteurs, un pôle. Bon, dans les grandes villes, la question se pose relativement peu et sur une base territoriale. Et là, on a l'impression que tout ce qui va être une idée d'aménagement de la notion de secteur, qui est une mission de service public, d'ailleurs qui vient de l'hygiénisme social, hein, c'est vraiment une... Moi, je les ai connus, moi, les pères fondateurs, c'était vraiment des gens de santé publique dans leur tête. Hein. C'est vécu comme la destruction, je veux dire, de ce qu'est le secteur. Quoi. C'est-à-dire, dès qu'on parle d'intersectorialité, etc., et puis des évolutions, quand même, que l'on voit arriver. Je pense, par exemple, à la psychiatrie en milieu carcéral ou la psychiatrie infanto-juvénile, qui manque de moyens, de manière évidente, avec la mise en place des HAS. Là, on se dit, quand même, on est peut-être qu'on n'est pas tout à fait à la hauteur. Voilà. Alors, on voit qu'un certain nombre de scénarios se mettent en place et avec plusieurs points. Premièrement, la question de la santé mentale, qui est une question qui, hélas, à mon avis, n'est pas réglée sur le plan psychiatrique. C'est qu'on voit bien que la psychiatrie, je dirais, pure, c'est-à-dire les maladies mentales clairement répertoriées, schizophrénie, etc., etc., c'est 3 à 5 % de la population, ce qui est déjà énorme. Mais que si on arrive sur le concept de souffrance psychique, qui est que tout citoyen, à un moment de sa vie, peut être confronté à quelque chose d'extrêmement difficile qui nécessite un soin ponctuel, là, on arrive à 30-40% de la population, selon les études épidémiologiques en Europe occidentale. Nous sommes confrontés aussi à une crise d'identité, le renforcement sécuritaire, l'image négative qui est renvoyée... l'asymétrie des ressources, avec un vrai débat qui n'a pas eu lieu... un vrai débat démocratique sur les moyens alloués entre la médecine chirurgie obstétrique, qui coûte très cher, et les médecines plus oblatives, il n'y a pas que tout, je pense à la gériatrie ou à d'autres données. Voilà. Donc, là, c'est les années 2000, on voit bien que se passe un phénomène où la psychiatrie est très fortement défendue, est reconnu surtout au niveau des tutelles par un triptyque associant une AFAM, FNAPSI et conférence des présidents de CME, de CHS, qui est carrément l'interlocuteur majeur et continue dans ce domaine et sur une situation, après tout, qui mérite d'être discutée par rapport à ce que nous vivons actuellement. Alors, quelques points sur la situation actuelle, même si on veut faire les choses à minima, même si nous faisons le deuil d'une psychiatrie française à la hauteur de ce qu'elle doit être par rapport à notre pays. Premièrement, l'augmentation des demandes. Elle est exponentielle. C'est un champ indispensable pour la santé globale. Et ce point-là, à mon avis, n'est pas vu comme il devrait l'être. Deuxièmement, la montée en poids des usagers, je viens de l'évoquer, mais usagers qui défendent et sont surtout la problématique de la psychose. Troisième point de pleine actualité, c'est repenser la territorialité. Alors, ça devrait être facile quand même pour des gens qui, d'emblée, pensaient en territorialité, quand même. Hein. Donc, il y a une ruralité, des trucs urbains, des trucs médians, et on doit pouvoir penser dans une sorte de surmesure vraiment adaptée en mono-intersectoriel, le même modèle peut et doit être appliqué et pensé, et donc interroge complètement la territorialité. Enfin, il y a un mot qui a été cité, je le citerai vraiment pour la psychiatrie, c'est la télémédecine. Alors l'histoire est une boucle, parce que c'est toi qui m'as parlé la première fois de télémédecine, ça devait être en 93. Tu m'as dit...
Médecine à la télé, hein, je t'ai parlé.
Mais pour la psychiatrie, tu me dis, est-ce que pour la psychiatrie, c'est intéressant Je dis, il est fou, je vois pas, une caméra, etc. Bon, en Amérique du Nord, toute la psychiatrie en milieu carcéral, toute la pédopsychiatrie éloignée, etc., se fait en télémédecine. Alors je dis pas que c'est quelque chose qui doit être seul, mais sur la vision territoriale, sur les choses à distance, urgence, maison de retraite, structure autiste, etc., c'est vraiment un outil qui doit, à mon avis, être pensé. L'autre point sur lequel nous n'avançons pas et qui devient, mais alors lancinant quant à ce qu'il bloque, c'est l'évolution des métiers et les délégations. Ça, c'est fondamental. On pourra avoir 22 000 psychiatres, vous en collez un par rue, on n'arrivera pas à répondre aux besoins de la population. Alors déjà, le problème médical. Il y a trois fonctions que font les psychiatres actuellement. Il y a une fonction médicale classique, diagnostique, médico-légale, thérapeutique, biologique. Bon, là, il faut être médecin, c'est pas discutable. Mais les deux autres fonctions, psychothérapie et opérateur en santé mentale, sont des fonctions qui n'exigent pas d'être médecin. Ça, c'est un débat sur lequel, à mon avis, il faut très vite déboucher. Nous ne pouvons plus former. En plus, nos jeunes ne viennent plus à l'hôpital, hein, surtout sur Paris. Donc, on ne va pas former des gens pendant 15 ans pour qu'ils s'installent psychanalystes aux universités. C'est actuellement ou faire des thérapies comportementales avec des passements à Neuilly et dans le 16e. C'est ça, la réalité. Hein. Je vous parle le vrai. Donc, nous recrutons peu et mal actuellement dans le service public. Sauf dans mon service, d'ailleurs, tout le monde passe le concours et fait des enfants. Donc, ce qui prouve que c'est quand même un bon signe. Bon, la place des psychologues et des psychothérapies, il est central. Alors, c'est le statut, c'est le remboursement de l'acte. Vous savez que les psychologues ont refusé le statut paramédical en 72 sur des raisons qui les regardent, mais qui ont fait qu'ensuite, ils ne sont pas rentrés dans un système de remboursement. Ça commence avec les mutuelles. Sur les infirmiers, moi, j'étais contre. Je pense que l'année de spécialisation sur laquelle Couty était pour, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se pencher et qui devrait être décalé pour cette profession si importante, etc. Et puis, le problème de la formation initiale, et la question posée, c'est est-ce qu'effectivement, les formations initiales sont adaptées, notamment sur le plan médical. Donc, sur le plan des territoires, avec Vigneron, on a réfléchi, on a proposé un modèle, je crois, qui est en pleine actualité. Hein, les territoires, il y a les bassins de vie, les pays, les grosses villes, les territoires, les régions, l'interrégional, et on peut tout à fait faire concorder l'offre de soins tout à fait complémentaire, qui fait qu'un citoyen qui soit en race campagne ou à côté du Panthéon aura, selon une modalité différente, un soin adapté en fonction de sa situation de santé. Donc là, je vais très vite, mais à mon avis, le problème est à peu près facile à voir. D'autre part, sur les rapports quand même, dans le rapport Milon, il y a un tableau. Ils ont pris tous les rapports depuis 2000. Hein. Et on voit que, à peu près, on sait ce qu'il faut faire, quoi. Les croix, elles sont à peu près sur... On est tous d'accord, hein. Alors, on peut recommencer 15 fois, mais en gros, il suffit qu'on se mette autour de la table. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas pour, sans doute. Et politiquement, c'est pas très porteur, probablement. Mais je prends, par exemple, les propositions de Daniel Gouet, un type remarquable. Ça va dans le même sens. Le rapport Milon, ça va dans le même sens. Enfin... Et alors, j'attire votre attention sur le rapport de la Cour des comptes, d'ailleurs qui proposait le maintien de la mission d'appui. Donc quoi, la Cour des comptes, quand même... Bon, on lit ça, bon, c'est je veux dire... Pardon, tout le monde s'en fout. En tout cas, on a voulu notre mort, ça, c'est sûr. Bon. Voilà. Je terminerai, donc, sur 5 points qui sont vraiment des points, à mon avis, de... Alors, faut pas réfléchir pendant des années, quoi, parce que c'est maintenant, hein. Moi, j'aimerais bien que ça bouge avant que je reparte à la retraite. Alors ça aussi, si vous voulez, moi, j'ai eu des patrons qui ont fait bouger le système, qui ont été très créatifs. Bon, nous, c'est dur, on n'y arrive pas, quoi. Ça, c'est quand même narcissiquement difficile. Alors, enfin, il y en arrive, il y a plus que d'autres. Je vois un homme dans le fond qui, quand même, fait bouger vraiment un dispositif. Alors, il y a 5 questions majeures. Premièrement, la question du territoire, on l'a abordé. Deuxièmement, les missions. Qu'est-ce qu'on fait dans la non-demande? Il est toujours pareil l'enfance, hein. Vous appelez, oui, mon fils, ça fait 6 mois, il ne sort pas de sa chambre, il dort de la nuit, qu'est-ce que je fais? Appelez les flics, appelez le généraliste. Non, on y va en visite à domicile. On voit les parents d'abord. Troisièmement, la clinique. La clinique est à revoir. Elle n'est pas assez travaillée dans un certain nombre d'aspects. Elle n'est pas assez enseignée aussi. Quatrièmement, les cultures et les formations initiales transprofessionnelles, avec peut-être des formations communes. L'interprofessionnel est peut-être à mettre en place dans ce domaine. Et puis enfin, cinquièmement, la place de la psychiatrie dans le champ de la santé mentale. Voilà donc ce que je voulais mettre sur la table. Je l'ai fait de façon très passionnée, vous le pensez bien. Je le pense vraiment, mais je suis là essentiellement pour en débattre.
Je prends la parole sans transition, Monsieur le Président. Félicitations, Guy Collet. Je m'appelle Gérard Massé. Bon, en fait, on est des vieux complices.
Ah oui, on se connaît depuis...
Au siècle dernier.
Oui.
Simplement, merci à Joseph. On est de la même promo. J'ai commencé ma carrière hospitalière avec lui. Je la finis avec lui. Formidable. Mais c'était le meilleur de ma promo. Ça, c'est un petit clin d'œil personnel. Alors, la psychiatrie, pour moi, je suis pas du tout un orfèvre de la psychiatrie. Je ne connais pas le sujet. C'est ce qui fait peut-être un avantage, je sais pas. Par contre, j'ai été inspiré par 3 maîtres, plutôt par 2 maîtres et 1 maîtresse. Je commencerai par la maîtresse, elle est dans la salle. C'est Nathalie Sanchez, qui était en charge de la psychiatrie à la FHF, Fédération Hospitalière de France, et qui me parlait souvent de la psychiatrie autour d'une tasse de thé. Parce qu'elle avait une manière très sympathique et très élégante de parler de la psychiatrie. Mais j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec elle. Les 2 autres maîtres, eh ben, il y avait Gérard Massé. Parce que j'ai été en charge, il y a quelques années, au siècle dernier, du bureau de la psy à Paris. Ils étaient irresponsables à l'époque. Le directeur des hôpitaux de l'époque, c'était un certain Gérard Vincent, qui m'a confié le bureau de la psy. J'ignorais tout. Et je me souviens de lui avoir dit, la psychiatrie, oh là là, c'est des gens intelligents. C'est compliqué. Ça fait un peu peur. Moi, je ne sais pas faire aborder ce sujet sans en parler avec des psychiatres. C'est à ce moment-là, avec un autre psychiatre, j'ai connu Gérard à l'époque, et c'est là qu'on a pas mal discuté, phosphoré, et c'est là qu'est née quelque part la mission, la fameuse mission Massé, la mission d'accompagnement. Donc c'est pour rappeler un peu l'histoire, évidemment, ça a été mon maître à penser. Moi, j'ai aucune opinion. Il m'a inspiré. Il y a un autre personnage que je voudrais saluer, que beaucoup connaissent ici, ceux qui sont dans la psychiatrie depuis quelques années, c'est le sous-directeur de l'époque, c'était Jean-François Baudurin. C'était quelqu'un qui était un passionné, qui connaissait son sujet et qui aimait ce secteur de la psychiatrie. Et moi, je dois dire que Jean-François a été pour moi un maître en la matière. Moi, j'étais un ignare, je le suis toujours. Bon, alors c'est pour ça que je ne vais pas faire un exposé de notaire, ce qui vient d'être développé, cher Gérard. en prenant année par année une espèce de bilan, succession, testament et comment dire, ambition future. Non, je vais vous donner le point de vue de Sirius. Point de vue de Sirius, la planète Sirius, qui regarde la planète Terre, mais dans la planète Terre, la planète psychiatrique. C'est un peu comme ça que je vais aborder le sujet. La première des choses... Alors, pour être tout à fait clair, est-ce que je parle au nom de la FHF ? La réponse est non, mais la réponse est en même temps oui, puisque je suis conseiller en stratégie à la FHF. C'est-à-dire, j'ai le droit de tout dire et de n'importe quoi. Ce qui est un beau métier. Est-ce qu'il faut me croire ? La réponse est non. Donc c'est provoquer, questionner, remettre en cause. Vous savez, il y a une phrase de Jean Cocteau qui disait la chose suivante, et qui me plaît bien. Désobéir, la désobéissance est nécessaire à la création. J'adore désobéir. Et donc ça inspire mon action, ma réflexion, etc. La première des choses, c'est, alors Gérard l'a évoqué d'une certaine manière, en l'affaiblissant en même temps. Moi, je pense que la psychiatrie a besoin d'être anoblie. C'est une discipline noble, aussi noble que la cardiologie, aussi noble que la chirurgie. J'ai pas dit ignoble. Pour certains, c'est ignoble. Ça fait peur. L'absolu, c'est intéressant, messieurs les psychiatres. Parce que je pense que ce sujet est un enjeu de santé publique. Je suis pas le seul à le dire. Vous savez, on considère en France et un peu dans le monde qu'il y a 16 grandes familles de pathologies et un certain nombre de sujets de santé publique majeurs. Actuellement, on parle du diabète, on parle d'un certain nombre de choses, et la santé mentale. Parce que ça représente beaucoup de monde, c'est comme le gaullisme. On a été concerné par le sujet, historiquement. On peut l'être encore, et on le sera un jour, concerné par le sujet de l'équilibre mental. Et de la santé mentale. Voilà. Et donc, c'est forcément quelque chose qui nous concerne tous. Donc, c'est une fonction noble. Et donc, mais une fois que j'ai dit ça, il y a donc un enjeu de santé publique. Donc, forcément, c'est au-dessus de la pile des préoccupations politiques. Ça devrait l'être. Quand on parle de stratégie nationale de santé, on parle de quoi ? De stratégie nationale de santé publique. Quels sont les éléments forts ? Les éléments majeurs. Donc, la santé mentale est forcément un sujet noble, important politiquement. Est-ce qu'on en a conscience toujours ? La réponse est non. La deuxième raison de l'anoblissement, en quelque sorte, c'est, Gérard l'a dit, mais pour gommer tout de suite, une fois qu'on a dit que la psychiatrie a été en avant, c'est-à-dire a montré le chemin, c'est un peu comme De Gaulle, Europe, tel le cabri sautant dans son fauteuil. Non, je pense sincèrement que la notion territoriale, c'est-à-dire la proximité avec les populations, la psychiatrie a été certainement le premier milieu médical qui a été avant-gardiste sur ce sujet. Il ne faut pas en avoir honte. Il faut respecter l'histoire. Il ne faut pas en avoir honte. Et donc la psychiatrie a été effectivement en avance. La psychiatrie, ça fait appel à plein de compétences. Vous avez l'habitude de fonctionner comme ça. J'allais dire à chasser en bande, pour être trivial. OK ? Et évidemment, il y a une vision territoriale par nature, par génétique de la psychiatrie. C'est un atout. Il faut le dire, le répéter. Ça, d'ailleurs, est assez intéressant. Vous savez qu'il y a une loi qui s'appelle la loi HPST, la fameuse loi scélérate, à laquelle j'ai contribué personnellement. On parlait territoire. On parlait coopération. On parlait, faut travailler avec les autres. On parlait dépasser les frontières. C'est ça, l'inspiration génétique de la loi HPST. Même si c'est les outils sont... Elle l'a dit, madame, de l'ARS de Lyon, les outils sont imparfaits, sont pas tout à fait élégants. Petite histoire quand même. C'est que quand j'étais aux affaires... on mettait des outils en place et on voulait que ce soit le plus souple possible, le plus large possible. Et c'est en fait nous-mêmes, en passant avec les bureaux et en passant avec les ARS, mais nous-mêmes, professionnels, qui avons à compliquer les choses. Parce qu'il faut garantir. Garantir égale du texte. Garantir, c'est la recherche de texte. On veut du texte. On refuse la liberté. Vous savez ce que disait Chateaubriand dans les mémoires d'outre-tombe ? Les Français n'aiment pas la liberté. Les Français ne respectent que l'égalité. Mais au nom de l'égalité, ce n'est pas le texte exact, que de crimes ont été commis. Eh oui. Eh oui. L'égalité, c'est l'uniformité. Tout le monde ressemble à tout le monde. Tout le monde, il est égal. C'est fascisant. C'est une provocation. C'est une délinquance que je vous raconte là. Mais j'y crois fondamentalement. Quand je vois que la Datar, quand je vois que la Datar va se transformer, elle est plus là, la petite dame, là, en service d'égalité territoriale. Moi qui suis breton, j'ai pas pris mon bonnet rouge. Bon, je suis pas très d'accord avec ce courant-là. Mais non, un breton va pas ressembler à un Alsacien. Il y a des différences culturelles. Il y a des différences d'enjeux. Et forcément, vive la différence. Alors effectivement, l'équité est un concept plus intéressant. OK? Et donc voilà, attention aux mots. Mais ça veut dire des théologies, ça veut dire des principes politiques. Moi, je suis favorable à la liberté, mais en même temps favorable au résultat et à la responsabilité. Ça, pour moi, c'est important. OK? Donc la psychiatrie, pour revenir à mon propos initial, c'est une fonction qui doit être ennoblie, en quelque sorte. Elle est aussi importante que les autres. Je comprends pas. Alors, un des inconvénients du secteur, je vous le dis comme ça, c'est que vous avez des réflexions, des réflexes, des organisations qui vous différencient du reste. Anoblir, c'est être au milieu des autres, puisque les malades sont au milieu des autres. Anoblir, c'est être au milieu des autres. C'est pas être différent et à part. C'est pas créer des frontières. Alors, on a tous le réflexe ancillaire de se créer son espace et son importance. C'est le contraire du service rendu aux patients, ça. Eh oui, est-ce que la DESM, qui réunit que les directeurs du psy, fréquente les autres directeurs? Ça, c'est une question à jour, ça. OK? Eh ben non. Je pense. Alors, il a fait, notre ami, une petite réflexion en classant les ARH en trois catégories. Et il a eu l'amabilité de me dire que j'étais dans la bonne catégorie. Il a eu tort. D'ailleurs, il y a quelqu'un ici à la réunion. Moi, j'ai piqué le pognon à la psy. J'ai enlevé l'argent en tant qu'ARH, donc j'ai été dans le mauvais quart. Mais je l'ai mis où, ce pognon? Ben là où il y avait des besoins de prise en charge de la santé mentale. Les urgences passaient dans les hôpitaux généraux. C'est-à-dire, j'ai pris l'argent de la psy, je l'ai donné un peu partout, sur les territoires, au-delà du secteur. OK? Et donc voilà, je dis la même chose, mais je le dis autrement. Et donc, c'est pas un problème notarial ou de propriété. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Alors, votre faiblesse, c'est effectivement, vous raisonnez pour vous-même. Vous êtes différent des autres. Vous voulez être différent des autres. C'est particulier, c'est spécifique. Mais c'est tuer la psy. Mais non, la psy doit être partout. Je disais un jour, quand j'ai fait la plateforme de la FHF, pour prendre une petite analogie, elle dit quoi, la plateforme de la FHF? Pour ceux qui savent la lire. 1, c'est la fin de l'hôpital. 2, c'est la fin des directeurs. 3, c'est la fin de la faculté de médecine. 4, c'est la fin de la FHF. Mince, cherchez l'erreur. On parlait quoi? Territoire, réseau, filière, prise en charge. Où des acteurs ont un rôle, ils discutent avec celui du voisin. Un hôpital, il ne doit plus exister. Le CHU, il ne doit pas exister, mais il doit être partout. Il doit être dans les réseaux. Et sortir de ses murs. La psy a cette culture-là. À cette culture-là, un petit effort, monseigneur. Bon, le directeur ne doit plus diriger une boutique. Il doit diriger une filière. Ce n'est plus le même jeu. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, vous avez des atouts, mais vous avez vos propres limites, que vous créez vous-même, que le secteur crée lui-même. J'aime trop le secteur pour ne pas le fustiger. C'est de l'amour, c'est de l'affection rugueuse. Comme ça, je l'appelais à FHF avec Nathalie. Mais j'aimais bien ça. Donc c'est important, c'est une discipline noble, et doit être partout, et ça doit s'intéresser à tout le monde. C'est pour moi extrêmement important, ça. Si on a compris ça, on a rendu service à nos concitoyens. Et donc après, ça doit se transformer en réalité. La première des choses que je dirais, c'est pas faire comme l'ARS de Lyon. Mais c'est une provocation, chère madame. Non, Une ARS doit accompagner et créer l'espace de liberté. Créer l'espace de liberté, pas faire la place d'eux. Sinon, les ARS deviennent quoi ? Quelque chose que le législateur n'a pas voulu, devient une organisation de groupe qui a ses filiales. Quand j'entends qu'à l'ARS, on met en place un contrôle de gestion, quand j'entends à l'ARS, on a une fonction achat pour l'ensemble du secteur, oh là ! C'est pas du tout l'esprit du législateur. Moi, j'ai trop de respect. J'étais moi-même directeur d'ARH en 7 des ARS. C'est ça. Ça doit donner le cap au nom de l'intérêt général, au nom de la puissance publique. Mais la manière d'y arriver, c'est les acteurs. Les ARS n'ont pas les solutions. C'est nous qui les avons. Mais est-ce qu'on est capable de nous entendre entre nous, psy et hors psy, pour proposer quelque chose à nos autorités? C'est ça la vraie question. Donc la question est posée à nous-mêmes. Sinon, on laisse l'ARS faire à la place d'eux. J'ai bien aimé quand même votre démonstration, chère madame. Vous êtes trop intelligente et c'est bien foutu votre histoire, mais vous devriez être dans le milieu. Faites comme Nathalie, quittez la FHF et allez vivre sur le terrain. Vous avez une âme du terrain, vous. Bon, vous avez un compliment un peu pervers. Vous l'avez compris. Mais c'est un sujet national au-delà de la psychiatrie, au-delà de la psychiatrie. Par contre, si l'ARS doit donner l'objectif, y compris pour la psychiatrie, elle doit être plutôt sur des indicateurs de performance et de résultats, et un principe au départ, non pas la confiance, mais la responsabilité. Je vous donne la responsabilité. La confiance, il y a eu un congrès syndical il n'y a pas longtemps, il y avait Toben, là, le philosophe, qui nous a parlé, la confiance n'existait pas, c'est une erreur, la confiance. Alors, ça fait écho au pacte de confiance, là. Hein. Comme disait Sacha Guitry, il est cocu, c'est pour ça que je trompe. C'est pas la confiance, ça. OK ? Non, la confiance, c'est dire à quelqu'un, tu es responsable. J'ai pas confiance, mais je te donne la responsabilité. La confiance, c'est comme la transparence. C'est tout le monde surveille tout le monde. C'est fascisant. La transparence, c'est la maison de verre. Non. Liberté, mais responsabilité. Et résultat. Et on rend compte. Parce que nous sommes un service public. Alors, je reviens au service public de territoire, puisque c'est le sujet. La psy peut montrer le chemin, qu'elle continue à donner le chemin. Le service public de territoire, c'est quelque chose qui était inscrit dans les gènes de la loi HPST, qui maintenant rentre dans la stratégie nationale de santé, qui était dans le rapport Couty, New Look, et qui dit « Vive le service public de territoire ». Très bien. C'est quoi ? Bon, il faut définir un territoire. Alors, il y a deux manières de définir. On tourne vers l'ARS et faisons des frontières administratives. Non. Le territoire, c'est les acteurs qui doivent dire ce qu'est le territoire. Il y a plusieurs territoires en plus. Et donc, c'est un consensus, une discussion. Et c'est là que l'ARS doit être animatrice, en quelque sorte. Et le territoire doit être quelque part accepté et doit susciter l'engagement des acteurs. C'est ça, le vrai territoire. Et il bouge tout le temps. C'est quelque chose de vivant. Ça ne doit pas se traduire dans une circulaire ou dans un texte. Je connais des régions qui ont dit un département égale un territoire. Absurde. C'est une vision administrative, acceptée par des professionnels. C'est ça qui m'étonne toujours. On critique la tutelle, mais est-ce qu'on se critique toujours ? Vous savez, la plus belle critique, c'est celle qu'on fait vis-à-vis de soi. L'homme à qui j'ai le moins confiance, c'est moi-même. Enfin non, c'est Gérard. Mais c'est lui qui m'a appris ça. Donc voilà, pour moi, c'est très important, ça, cette notion. Le territoire, c'est à vous de le définir. Évidemment, la tutelle doit être animatrice et doit favoriser tout ça. C'est le projet médical de territoire. Vous croyez que c'est des bureaux des ARS ou du ministère, une circulaire, qui doit définir ce qu'est un territoire dans tous les territoires de France ? La réponse, c'est non. La liberté, responsabilité. Et surtout de l'intelligence de terrain. Il faut que ça corresponde à une réalité. Les territoires chez moi en Bretagne du côté de Saint-Brieuc n'ont rien à voir avec les territoires des Hauts-de-Seine où j'ai pratiqué dans ma jeunesse. Ça n'a rien à voir. Alors, l'autre point, là je sens que je vais être trop long, oui je vais terminer. En fait, simplement, je vais rajouter, il y a quelques conditions dans cette affaire qui pour moi sont extrêmement importantes. C'est un,
Vous êtes en discussion sur le financement de la psychiatrie.
Ah, j'ai coupé.
Pardon. Le financement de la psychiatrie, reproduisez pas en psychiatrie le modèle T2A. On dit que le modèle T2A, pour moi, c'est du service public. Et un financement à l'activité n'a aucun sens dans ce modèle-là. Ça, c'est un peu libéral, un peu compétition, concurrence, tout ce qu'on veut. C'est absurde. On est en train de modifier la T2A. Vous n'allez pas, quelque part, reproduire un modèle un peu équivalent à la T2A. Pensez à autre chose. Premier point. Les autorisations. Réinventons les autorisations. Pour moi, et pour l'AFHF, les autorisations n'appartiennent à personne, pas à une clinique, pas à un hôpital, mais à une collectivité, un territoire. Comment l'imaginer ? Donner une autorisation à un établissement ou à une clinique, c'est une approche notariale. Ça m'appartient. Dans une clinique, ça se revend. Absurde. Absurde. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Dernier point, je ferai une petite pirouette, deux petites choses. Ce matin, en venant ici, la personne qui a succédé à Nathalie me montre, elle est en train de s'aller bosser, un document qui s'appelle le plan santé mentale 2011-2015. Je regarde les têtes de chapitres. On met fin aux ruptures de 5 chapitres comme ça, et à chaque fois, on met fin aux ruptures d'accessibilité, etc., etc. Une litanie. Mais c'est absurde. Si on met fin à rupture, tout le monde, il est pareil. C'est l'égalité perverse. Tout le monde, il est pareil. Vive la rupture. Vive la différence. Et donc, ça, c'était un point de vue personnel. J'ai pas lu le texte, hein, mais j'ai vu les titres. On met fin à rupture. Donc, c'est un raisonnement de rupture que je vous propose. Je veux de l'intelligence, la responsabilité, de l'imagination et de la confiance, mais au sens où je l'ai indiqué. La deuxième réflexion, puisqu'on est en période de commémoration, 1914, 2014, et moi j'étais directeur général de l'Office national des anciens combattants, ça me parle, vous savez, un métier, j'ai eu des métiers un peu bizarres dans ma vie, je me suis retrouvé, c'est les anciens combattants, des gens que j'ai... Et vous savez que les anciens combattants, surtout dans cette guerre-là, ont tellement, tellement apporté à la médecine française, à la chirurgie, mais aussi à la santé mentale. C'est ce que j'ai découvert dans ces milieux. Et j'ai envie de vous citer Clémenceau, qui s'adressait à Poincaré, président de la République à l'époque, et qui lui disait la chose suivante, et la santé mentale, c'est ça. Vous avez un dossier à la place du cœur, monsieur le président. La santé mentale, ce n'est pas un dossier. Voilà ce que je voulais vous dire.